Le journal Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour. Au début, une histoire de homard. À la fin, il rend son tablier. François de Rugy a démissionné hier. Entre-temps, d'autres révélations sur l'utilisation de l'argent public, de ses frais de mandat. En cuisine, à l'Elysée, en mode express cette nuit, la nomination de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à la transition écologique. Analyse et réaction dès le début de ce journal. Nous verrons aussi quels sont les dossiers qui attendent la nouvelle ministre. Icône dans son pays et pour toute une génération à travers le monde entier. Johnny Clegg, le Sud-Africain, le Zoulou blanc, est mort hier. Il avait 66 ans. La préparation du G7 ou comment taxer les multinationales, les ministres des Finances en réunion aujourd'hui et demain. On en parle aussi, Frédéric Mettezo, avec votre invité à 8h20.
Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, dans le grand entretien de la matinale. Le G7 Finance, en effet, avec ce projet d'impôt sur les sociétés, un impôt mondial pour lutter contre les paradis fiscaux. Bruno Le Maire veut aussi taxer les GAFA, mais la France est encore un peu seule. Les traités commerciaux, la réforme des retraites, la démission de François de Rugy, appelez-nous au 01 45 24 7000, le standard est à vous.
Dans l'actualité encore, la sécheresse critique dans 61 départements et l'Algérie, J-2 avant la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Mise en cause sur son train de vie et son utilisation de l'argent public, François de Rugy a donc démissionné hier pour mieux se défendre, dit-il, pour protéger le gouvernement. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Hélène.
Avant de plonger au cœur de l'affaire, d'abord cette nomination en plein milieu de la nuit de son successeur, ou de plutôt de sa successeur, puisque c'est la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui reprend le flambeau à la transition écologique. Yael Goz, cette fois, on peut dire que l'Elysée a réagi en mode express.
Ah oui, remaniement dans la gestion du temps. Il est un peu plus de 20h hier soir, on me dit ceci, vous connaissez le président, il va pas se presser, c'est habituel. 23h40, François de Rugy est remplacé et jusqu'au bout de la nuit, la nouvelle chef du service de presse de l'Elysée fait le service après-vente de la décision du président. Elisabeth Borne et son CV parfait, nous dit-on, pour prendre la relève, tout terrain, ex-chef d'entreprise, ex-préfète, ex-directrice de cabinet d'une certaine Ségolène Royal quand elle s'occupait d'écologie, un choix express pour montrer qu'il n'y a pas de pause dans la priorité écologique du gouvernement, mais une priorité qui n'apparaît plus dans les attributions de la ministre. François de Rugy était numéro 2 du gouvernement, Elisabeth Borne est simple ministre.
On reviendra plus tard sur Elisabeth Borne avec Sandy Dauphin, mais décidément, Yael, un an après l'affaire Benalla, les étés sont meurtriers en Macronie.
Oui, c'est un peu le film d'épouvante. Souviens-toi, l'été dernier, épisode 3, Bayrou 2017, Benalla 2018, Rugy 2019, 15 ministres au total, démissionnaires ou exfiltrés en 2 ans, ça fait beaucoup. La moralisation de la vie publique, c'était la promesse du candidat Macron. Conséquence, tout le monde est en permanence passé au scanner avec effet boomerang. De Rugy tombe alors qu'il n'y a ni mise en examen ni enquête préliminaire. C'est aussi ça le nouveau monde. Emmanuel Macron a d'abord défendu son ministre, mais sans se faire trop d'illusions face au rouleau compresseur Mediapart. Une nouvelle fois dans cette affaire, c'est aussi la question du DRH Macron qui est posée. Manque de vigilance dans certaines nominations avec les ministres Modem en 2017, avec Nathalie Loiseau comme tête de liste aux européennes, avec Alexandre Benalla bien sûr, et maintenant au municipal, avec des arbitrages qui créent du conflit à Paris et Lyon.
Yael Goz, chef du service politique de France Inter, merci. François de Rugy, quant à lui, dénonce un lynchage médiatique après les différentes révélations de Mediapart. Du homard, donc, dans de somptueux dîners quand il était président de l'Assemblée, à l'utilisation de ses frais de mandat en tant que député, sans parler d'un usage présumé abusif, des voitures avec chauffeur ou encore de son appartement à loyer préférentiel. À propos des frais de mandat, la goutte d'eau, visiblement pour le désormais ex-ministre, de quoi parle-t-on au juste. François de Rugy aurait utilisé cet argent versé à chaque député pour payer sa cotisation à son parti politique de l'époque, Europe Écologie. Pas très déontologique, mais pour autant, est-ce un délit? Eh bien, pas si sûr. Jean-Philippe Deniaud.
En 2013 et 2014, quand François de Rugy puise 9 200 euros de ses frais de mandat pour cotiser à son parti et qu'il les déduit de ses impôts l'année suivante, cette pratique n'est pas interdite. Elle est simplement contraire aux règles déontologiques de l'Assemblée. C'est seulement à partir de 2015 qu'elle sera prohibée et c'est seulement depuis la loi de confiance de 2017 que se mettra en place un contrôle des dépenses des parlementaires, contrôle aléatoire, réalisé chaque année sur quelques-uns tirés au sort. A priori, les mises en cause révélées par Mediapart ne constitue donc pas un délit pénal, mais rien n'empêche le parquet national financier d'ouvrir une enquête préliminaire afin de passer au crible l'ensemble des dépenses de l'ancien député et d'examiner sa situation fiscale. En 2011, François de Rugy était le co-signataire d'un projet de loi visant à imposer la transparence des dépenses de l'argent public par les élus. 8 ans plus tard, c'est pour avoir commis ce qu'il dénonçait qu'il est poussé à la démission. avant même d'être inquiété par la justice.
Jean-Philippe Deniau. Quant à Europe Écologie Les Verts, le parti envisage de rembourser le montant des cotisations versées par l'ex-ministre. Une affaire qui, en attendant, ne surprend pas vraiment nos voisins. Bien au-delà du cas de François de Rugy, il y a en France particulièrement une déconnexion des élites, selon le Belge Philippe Lamberts, co-président des Verts au Parlement européen.
Ce qu'il y a peut-être dans un pays comme la France et moins dans d'autres, c'est cette espèce de statut particulier de l'homme ou de la femme politique. On respecte la fonction, peut-être plus en France qu'ailleurs. Quand je pense aux pays scandinaves, par exemple, vous pouvez être Premier ministre, vous êtes un être humain comme les autres, point barre. En France, dès l'instant où on joue un rôle en politique, on fait partie quelque part de la course, un peu ce vieux fonds monarchique de la France. Et donc, ça peut évidemment pousser à l'excès. Et je pense que le comportement de François de Rugy accrédite cette thèse que, ben oui, les politiques, de toute façon, ils se considèrent comme faisant partie d'un autre monde que nous. Et c'est ça qu'il faut combattre, en effet, par un comportement sobre et qui laisse à penser à nos concitoyens que celles et ceux qui exercent des responsabilités politiques le font vraiment avec le sens de l'intérêt général.
Réaction recueillie à Strasbourg par notre correspondante Johanna Hochstein. On l'a dit, c'est donc Elisabeth Borne qui devient ministre de la Transition écologique à la place de François de Rugy. Mais vu l'urgence climatique, le manque de stabilité à ce poste devient problématique pour Jean-David Abel, vice-président de l'association France Nature Environnement.
C'est sûr qu'en ayant eu peut-être une douzaine de ministres de l'environnement ou de l'écologie en une quinzaine d'années, il est difficile d'installer des politiques dans la durée, même si c'est d'abord du choix du Premier ministre et du Président que peuvent découler des politiques plus ambitieuses. Toute la question, au-delà d'un changement de ministre, c'est est-ce que le gouvernement va changer d'orientation en matière de transition sur la loi mobilité, sur la loi énergie. Par exemple, il y avait des choses importantes à faire, plus ambitieuses, plus précises, mieux budgétées.
Le vice-président de l'association France Nature Environnement avec Lucie Barbarin. Loi mobilité, loi énergie, les dossiers ne manquent pas. Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste environnement ici à France Inter. D'abord, Liel Gauze l'a un peu évoqué, mais quel est le profil précisément d'Elisabeth Borne?
58 ans, polytechnicienne, Elisabeth Borne n'arrive pas en terre inconnue au ministère de l'Environnement puisqu'elle était déjà sous la tutelle de François de Rugy. Elle fut aussi en 2014 la directrice de cabinet de Ségolène Royal après avoir été préfète de la région Poitou-Charentes. À l'Élysée, on justifie également cette nomination en expliquant que l'ancienne présidente de la RATP a mené la réforme du début du quinquennat, la réforme de la SNCF. Elisabeth Borne va cumuler les deux portefeuilles, transport et écologie, mais le poste perd le statut de ministre d'État, ce qui ne passe pas inaperçu.
Et les dossiers, alors Sandy, qu'est-ce qui attend la nouvelle ministre?
Deux gros projets de loi l'attendent à la rentrée, l'un sur le recyclage et l'anti-gaspillage qualifié de prioritaire par le Premier ministre, et puis le projet de loi pour verdir les transports et favoriser les déplacements au quotidien qui revient à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a la réputation d'être une grosse travailleuse, mais elle est également considérée comme une bonne élève de la Macronie. Elle est attendue au tournant pour montrer qu'elle va batailler pour obtenir les arbitrages et les budgets nécessaires pour l'environnement. Premier caillou dans la chaussure de la ministre, va-t-elle réussir à sauver la ligne de fret de fruits et légumes entre Perpignan et la région parisienne Rungis? Un comité de pilotage était prévu aujourd'hui.
Merci Sandy Dauphin. Et pour être tout à fait complet, passation de pouvoir prévue à 14h tout à l'heure. Et ce matin, tout premier conseil des ministres donc pour Elisabeth Borne avec sa nouvelle casquette.
France Inter, il est 8h08, c'est le journal d'Hélène Roussel. L'autre info ce matin, Hélène, c'est la mort de Johnny Clegg.
C'est un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre. Johnny Clegg, le Zoulou blanc, aura fait connaître à toute une génération à travers le monde l'Afrique du Sud, le régime de l'apartheid et bien sûr Mandela. Musicien engagé à l'image de ses chansons, de la pop et du rock avec du traditionnel Mbakanga Zoulou, un mélange des couleurs à l'image avant-gardiste d'une nation arc-en-ciel. Ça faisait plus de 4 ans qu'il se battait contre un cancer. Johnny Clegg est mort hier chez lui à Johannesburg, il avait 66 ans. Un humaniste, un symbole pour le spécialiste ici à France Inter des musiques africaines, Soro Solo, il répond à Alexis Demeyer.
Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle le Zoulou blanc. Parce que non seulement il a appris à parler le Zoulou, il a appris à danser la danse guerrière des Zoulous, et surtout, son engagement auprès des Africains d'Afrique du Sud pour combattre le pouvoir blanc auquel il appartient, dont il avait tous les usufruits. Mais non, il s'en foutait d'avoir ses privilèges. Il trouvait juste que c'était d'une injustice notoire. Et Johnny Clegg, il était l'un de ces blancs, comme on en a vu, dans la lutte contre l'esclavage, dans la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. On a vu aussi des blancs au front. Ça aussi, il ne faut jamais l'oublier. Et Johnny Clegg, pour nous, est un symbole. Et on l'applaudira toute la vie.
Assis Bonanga, chanson écrite pour Mandela en 86. En Zoulou, ça veut dire nous ne l'avons pas vu. À l'époque, Madiba est en prison, ses portraits sont interdits. Il devient en Afrique du Sud un symbole sans visage. Je vous conseille d'aller sur franceinter.fr, ne serait-ce que pour revoir ce concert bourré d'émotions. 1999 à Francfort, Johnny Clegg et Mandela sur scène, ensemble, main dans la main. En bref, une femme aux commandes de l'Europe, c'était Eric Rack, mais elle est passée. L'Allemande centre-droit libérale Ursula von der Leyen a été élue hier par les députés européens à la tête de la Commission. L'Europe et le Canada, le traité de libre-échange en cours de ratification. En France, la bataille c'est aujourd'hui à l'Assemblée. Le CETA, un bel accord pour le gouvernement, un accord anti-écolo. Écolo dénonce les opposants.
Et à propos des ressources de la planète, Hélène,
l'eau sera-t-elle bientôt de l'or? Une grande partie de la France souffre d'un manque de pluie et chaque jour un département se rajoute sur la liste, 64 au total ce matin, concernés par des restrictions d'eau, en particulier la Creuse ou certaines villes comme Paris qui n'ont pas reçu une seule goutte d'eau depuis le début de l'été. La Loire aussi dans un état critique. De quoi s'inquiéter pour les 4 centrales nucléaires alimentées par le fleuve, Belleville, Chinon, Dampierre et Saint-Laurent-des-Eaux. Il y a bien des barrages, mais ça ne suffit pas pour l'écologiste Charles Fournier, vice-président du conseil régional Centre-Val-de-Loire.
Plus de la moitié des consommations d'eau dans le cycle court de l'eau, c'est de l'eau pour les centrales nucléaires. Et donc évidemment, quand vous avez un débit de la Loire qui descend et qui est, flirte avec la limite des 50 mètres cubes par seconde, aujourd'hui nous y sommes, et qui est la limite minimum pour pouvoir maintenir nos centrales en sécurité, pour avoir l'eau suffisante pour refroidir nos centrales, ça pose un énorme problème. Mais il y a un autre problème auquel on ne pense pas lié aux centrales, c'est que cette eau, quand elle vient refroidir les centrales, elle repart, elle est chaude. Et si elle est chaude, elle vient réchauffer les eaux de la Loire et donc du coup modifier encore une fois le milieu. Et vous voyez, les impacts sont extrêmement importants. Là, on a un niveau de débit qui est très faible. Et quand il y a moins d'eau, les concentrations de produits polluants sont plus importantes et plus visibles. Et donc, je crois qu'on ne peut pas prétendre qu'on est dans un système totalement résilient, totalement sous sécurité. Ce n'est pas vrai. Et la crise de l'eau, là, met bien en évidence la problématique du nucléaire.
Interview réalisée par Laura Lavenne. Et puis dans le registre, il n'a jamais fait si chaud près de la banquise. Le mercure a touché les 21 degrés il y a 3 jours, à moins de 900 km du pôle Nord. Record absolu pour les experts.
Comme une répétition générale avant le G7 à Biarritz le mois prochain.
Aujourd'hui et demain, les ministres des Finances des 7 plus grandes puissances se retrouvent à Chantilly dans l'Oise. Comment rendre le capitalisme plus juste? Comment adapter la fiscalité internationale? Vaste programme et vrais enjeux pour les ONG qui vont suivre de très près les discussions. Claire Chaudière.
Pour éviter les tours de passe-passe qui permettent à des entreprises composées d'une myriade de filiales de déclarer jusqu'à 40% de leur plus-value dans des paradis fiscaux, l'idée d'une taxation sur la globalité des bénéfices s'impose, Martel Dominique Plion, économiste et membre d'Attaque.
Les multinationales paieront plus d'impôts et ça permet de redistribuer les profits dans les différents pays en fonction de l'activité réalisée par ces multinationales d'une manière plus équitable, notamment en direction des pays du Sud, mais aussi d'un pays comme la France. Ça s'appelle la taxation unitaire.
Parallèlement à cela, une obligation de transparence des activités des multinationales avec publication des effectifs et des chiffres d'affaires par pays constituerait une grande avancée. Reste la question du niveau de taxation. Faut-il un niveau plancher en dessous duquel les pays ne pourraient pas descendre? Oui, et avec un taux minimum ambitieux, explique Quentin Parinello chez Oxfam. Autrement,
certains pays vont prendre des mesures unilatérales. C'est un petit peu tout le risque. Et c'est pour ça que collectivement, on dit aujourd'hui, vous, pays, vous avez l'opportunité de réaliser une réforme en profondeur des règles en matière d'imposition sur les sociétés. Des règles qui pourraient s'appliquer sur les 100 prochaines années. Il y a une attente forte.
Et partagée, concluent ces experts, par des mouvements citoyens de plus en plus important.
Une imposition mondiale minimum sur les sociétés, c'est aussi ce que défend ce matin dans les pages du Figaro le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Vous en reparlerez, Frédéric Mettezo, car le ministre est votre invité tout à l'heure à 8h20. Le Vichy rose broie du noir depuis 2 ans déjà, mais on l'a appris hier, c'est fait. Les magasins Tati vont devenir Jiffy. 13 magasins vont fermer, 189 personnes licenciées. Le seul Tati qui restera debout, c'est l'historique, celui de Barbès à Paris. Là, la couleur, c'est plutôt vert, comme l'espoir. Les Fenech dans les starting blocks et les supporters avec. J-2 pour l'Algérie face au Sénégal en finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, vendredi au Caire. Un événement sportif et politique aussi. La preuve, le gouvernement algérien a carrément mis en place un pont aérien. 28 avions pour acheminer des milliers de fans jusqu'en Égypte. Reportage de Laïla Berato à Alger.
Ils sont plusieurs milliers à faire la queue sous le soleil devant le stade du 5 juillet. Zoubir, 30 ans, patiente depuis 4 heures du matin en espérant avoir un billet à prix réduit pour le Caire.
On a l'équipe nationale dans le cœur. On a grandi avec, on s'est levé avec, on vit avec et on reste avec elle jusqu'à la mort.
La plupart d'entre eux repart déçus ou plutôt en colère, comme Kader, 24 ans, qui a fait le trajet depuis Oran.
Mais il y a des problèmes. Ils nous ont dit que c'était gratuit. Ensuite, ils ont mis à 35 000 dinars. C'est le chaos. Ils sont mal organisés. Ils frappent les gens.
Malgré des accusations de corruption, quelques personnes sortent du stade, sésame en poche. Karim a 45 ans, a acheté 2 billets pour ses fils.
Je suis contente. J'espère que vendredi soir, on ramènera la coupe. Je ne vais pas mentir, à l'intérieur, il y a du piston. Il y a la police qui entre pour amener des dossiers. Laissez nos jeunes aller s'amuser. Ils y vont en payant, ils n'y vont pas gratuitement. Laissez-les entrer.
Au total, 4800 supporters quitteront l'Algérie et rejoindront plus de 1200 personnes qui, elles, sont restées au Caire après la demi-finale. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Et donc la finale Algérie-Sénégal, c'est vendredi. On verra bien si les Fennecs mangent du lion.
À moins que ce soit le contraire, hein. Les lions du Teranga.